Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, mercredi 27 septembre 2023. Je connais plein de personnes nées un mercredi 27 septembre, enfin disons nées le 27 septembre, je leur souhaite à toutes un joyeux anniversaire. Émission 306, Christophe Rollin au micro. Je ne suis pas seul, Francis n'est pas là, mais je suis en fort bonne compagnie. Jérôme Tomaselli n'est pas là non plus, mais je suis avec Julia qui va tout nous dire, Julia Biel. Elle va même nous donner son titre. Commissaire d'exposition, attaché aux relations publiques, manager général, enfin voilà, elle nous dira tout dans quelques instants. La Tomaselli Collection, c'est un nouveau lieu qui a ouvert à Vaise il y a peu, ça ne fait pas encore un an, qui propose de voir des peintures, bien entendu, des peintures lyonnaises, et qui est aussi un lieu que l'on peut privatiser, que l'on peut mettre à disposition pour différents événements, différentes choses. Il y a une exposition actuellement qui porte un beau nom, chef-d'œuvre de la peinture lyonnaise, c'est un nouvel accrochage, les siècles des 17e au 21e siècle. Cette exposition a lieu jusqu'au samedi 28 octobre et nous allons donc en parler. Alors on va commencer avec des champs de blé. C'est certainement un des motifs de l'exposition. Ce sera aussi, je pense, un des motifs de la prochaine exposition qui se tiendra prochainement sur les paysages lyonnais, Lyon et sa région. Lyon par les artistes lyonnais ainsi que de la région. Et donc nous allons commencer avec des champs de blé qui viennent, eux, de Gaëtan Nonchalant. Un bon nom d'artiste. Ils sont avec Philippe Catherine, l'association est peut-être tout à fait normale, avec dans l'album Changement de Programme, cet extrait de la compilation des Inoccupables qui vient de sortir. Donc commençons avec ces champs de blé, et ensuite portrait de Jérôme Tomaselli qui est absent, et surtout précision sur cette exposition qui est rafraîchissante, qui est vraiment très, très, très plaisante, très agréable. L'émission est sur... Radio Canu, vous pouvez nous écouter sur radiocanu.org si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire à Lyon tout simplement sur le 102.2 de la bande FM.
Les pieds dans l'eau, je m'aventure sur l'île.
Et je t'ai pris la main.
un extrait de la compilation des Arts Occuptibles, hein, le nouveau numéro qui vient de sortir, il s'appelle comment, Octobre 23, c'était donc Gaëtan Nonchalant, featuring Philippe Catherine pour le titre Champ de blé, dans cet album Changement de programme. Enfin, voilà. Et ces champs de blé, cela me fait penser à, je crois qu'il doit y avoir des paysages de champs de blé dans les chefs-d'œuvre de la peinture lyonnaise, Nouvel Accrochage, une exposition qui se tient à la galerie Tomaselli, enfin disons la Tomaselli Collection, ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 10h30, 22 rue Lord Diebold, dans le 9e Avèze. Non, Julia, je n'ai pas tout dit. Tout d'abord, bonjour Julia.
Bonjour Christophe, merci de me recevoir.
Oh, j'ai un réel plaisir. Donc, comment vous nommez? Jérôme Tomaselli aurait pu être présent, il a un empêchement.
Voilà, exactement.
Et donc, votre titre?
Alors, donc, je m'appelle Julia Biel, je suis chargée de collection à la Tomaselli Collection. Donc, on est deux sur mon poste, en fait. Donc, je travaille en doublant avec ma collègue
Ambre Bonnefou.
Ambre Bonnefou, que je salue. Et alors, toutes les deux, on s'occupe de la Tomaselli Collection et on a des missions très variées. Donc, ça va de la conservation des œuvres à leur conditionnement, accrochage, décrochage, sélection des œuvres pour les expositions, politique d'édition aussi, on fait les catalogues. On a une partie aussi événementielle, puisqu'on privatise les lieux de la Tomaselli Collection pour les séminaires, conférences, entreprises. Et puis, on a une partie galerie, puisque, en fait, on vend aussi des œuvres d'art. Voilà, donc en fait, ça fait tout un tas de missions. On s'occupe aussi de la restauration des œuvres, de les encadrer. Voilà, on reçoit les factures, on paye voilà, les marchands, etc. Donc, c'est tout un tas de choses à faire.
Beaucoup de travail depuis la prise de poste est assez récente, Julia, je crois.
Oui, alors moi, j'ai été engagée le 17 avril dernier. Un jour après mon anniversaire, du coup. Voilà, c'était un beau cadeau. Et ça me permet de retrouver un peu l'univers des arts visuels que j'avais un peu délaissé et qui correspond vraiment à mes premiers amours, puisque moi j'ai fait des études en histoire de l'art à l'université de Lyon 2 et à l'école du Louvre également à Paris. Donc, du coup, j'étais très heureuse de pouvoir prendre ce poste-là et qui est vraiment consacré à la création lyonnaise et chose qui m'intéresse énormément puisque j'adore la ville de Lyon et son histoire. Donc.
C'est donc, voilà, la première question arrive. Comment évoquer, peut-être ce sont tout de même deux choses différentes, comment évoquer Jérôme Tomaselli, donc absent, il aurait dû, c'était l'invité prévu. On avait prévu ce plan B, hein, je crois, on s'était vu la semaine dernière, on avait évoqué que peut-être il pourrait avoir un empêchement, enfin du moins son absence pouvait se faire. Bon, bien, on a bien fait de l'évoquer. Donc comment parler de ce Jérôme Tomaselli qui n'est pas là aujourd'hui, et puis comment aussi parler de cette Tomaselli Collection? Ce sont quand même deux choses bien différentes. Jérôme Tomaselli, est-ce que vous pourriez brosser un portrait court et dire de lui, je crois, seulement le nécessaire, c'est ça, parce qu'il a certaines choses qu'il ne souhaite pas forcément ni cacher, mais il ne souhaite pas forcément s'étendre dessus.
Alors Jérôme Tomaselli, donc, c'est le directeur de la Tomaselli Collection. Il est amateur d'art, collectionneur, et il est chef d'entreprise aussi à côté. Il est né en 1960, donc il a 63 ans. Et en fait, il faut savoir que c'est un passionné de l'art lyonnais, de la création lyonnaise. Il connaît vraiment énormément d'artistes qui ont œuvré à Lyon du 17e siècle, même du 16e siècle jusqu'à nos jours. Donc il y passe beaucoup de son temps libre, en fait, à force de relations avec les marchands, de contacts avec les maisons de vente aux enchères, etc., il a pu collecter au fil des années tout un ensemble très cohérent d'art lyonnais.
D'où est-ce que ça lui est venu, ce goût, cette passion,
ça lui est venu tout jeune, encore adolescent, même à l'âge de 12 ans, il a commencé à fréquenter le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui se trouve au Palais Saint-Pierre, pas loin d'ici, sur la place des Terreaux. Et c'est vrai qu'à l'époque, le musée était gratuit, donc il pouvait y aller très souvent.
Et il est encore gratuit, c'est quand il était jeune, c'est ça?
Voilà,
ça reste gratuit,
en fait,
pour les moins de 18 ans.
C'est gratuit pour les moins de 27 ans. En réalité, du coup, il y avait un premier étage qui était consacré aux peintres lyonnais. Donc il est tombé en admiration devant ces peintres qui ont fait Lyon et son histoire et le patrimoine qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, en grandissant, il est devenu chef d'entreprise et puis il a commencé à consacrer son temps libre à essayer d'acquérir les œuvres des Lyonnais qu'il avait pu voir au musée Saint-Pierre. Et donc il s'est demandé s'il pouvait en acquérir une, puis il a vu qu'il pouvait en acquérir une, puis deux, puis trois, et voilà.
Cela ne fait pas tout à fait 30 ans qu'il s'est lancé dans la collection.
Alors je pense que ça doit être dans les années 90, à partir des années 1995, qu'il s'est mis à collectionner.
Bon, on y arrive tout doucement.
Ouais, exactement.
Ça fera bientôt 30 ans. C'est ce goût pour les Lyonnais, et comment dire, c'est assez difficile à présent de pouvoir continuer à voir des Lyonnais au musée des Beaux-Arts, parce que Vous me le confiez la semaine dernière. Est-ce qu'il existe encore ce premier étage consacré au peintre Lyonnais ?
Il existe toujours, mais aujourd'hui, il est consacré à la boutique du musée, auditorium, restaurant. Donc, c'est vrai que les Lyonnais sont un peu éclatés, un peu de partout dans le parcours permanent du musée. Et c'est vrai que même s'ils sont présents encore sur les Cimaises, on a du mal à savoir si c'est des Lyonnais. Enfin, il n'y a plus cet ensemble cohérent au sein du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et le fait d'aller à la Thomas Zélie Collection, ça permet vraiment de voir tout cet ensemble incroyable de peintres lyonnais, puisque tous les peintres qui sont exposés à la Thomas Zélie Collection ont un lien avec la ville de Lyon, que ce soit parce qu'ils sont nés à Lyon ou parce qu'ils ont pu bénéficier du système d'exposition, ou bien qu'ils sont passés par un enseignement artistique à Lyon comme l'école des Beaux-Arts, etc. Donc c'est vrai que les amateurs qui viennent voir nos peintures aiment retrouver vraiment un patrimoine local en fait.
Alors, ils ne pourront pas toutes les voir. Je crois que deux œuvres ont été retirées de l'exposition actuellement et ont pris le TGV, je suppose.
Oui.
Ils sont montés à Paris. On peut les voir à Orsay, au Louvre ?
Non. Au musée d'Orsay, voilà. Il y a une exposition qui est consacrée au peintre lyonnais Louis Jeanmot. Peintre lyonnais qui est né en 1814 et qui, en fait, est connu pour son grand œuvre qui s'appelle « Le poème de l'âme ». Et en fait, qui est 34 compositions, donc 18 peintures et 16 grands fusains, et qui relètent de la vie d'une âme du début jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, elle passe par différentes épreuves, etc. C'est vraiment un cycle pictural, mais aussi poétique, puisque Jeanmot était aussi poète. Et c'est vraiment ce qui est montré au sein de l'exposition du musée d'Orsay. Et le poème de l'âme, d'habitude, est montré au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et là, pour la première fois, le musée d'Orsay fait une grande exposition coup de projecteur sur ce grand œuvre. Et ça permet de mettre en lumière Louis Jeanmot, mais aussi toute l'école lyonnaise, puisque Jeanmot était en lien avec beaucoup d'autres peintres lyonnais et qu'on peut découvrir à la Thomas Zélie Collection d'ailleurs, comme Florentin Servant, comme Paul Flandrin, Paul Borel, Victor Orsel, etc. Victor Orsel était son maître par exemple.
Okay. Et donc Jérôme Thomas Zélie lui-même est prêteur pour cette exposition.
Oui, on prête deux œuvres. Alors un grand dessin modello qui est un travail préparatoire pour une grande fresque qu'il avait fait dans sa maison de Bagneux et qui présente l'artiste et sa famille, donc sa femme et ses 7 enfants. Et aussi une version préparatoire de La Ronde, donc qui est une composition picturale aussi, une huile sur toile, et qui est vraiment magnifique et qui est un des fleurons de l'exposition en cours.
Julia, comment est-ce que vous faites pour avoir de telles connaissances sur Louis Jeanmot, sur ses différentes œuvres ? N'auriez-vous pas commis quelque chose, un ouvrage
Oui,
vous
en
aussi
fait, c'est alors les éditions Faton qui m'ont proposé de faire des articles sur l'exposition du musée d'Orsay en cours. Et du coup, avec mon ami Gabriel Charaudot, on a mis au point le hors-série, l'objet d'art consacré à Louis Jeanmot, et qui est disponible actuellement sur le site internet des éditions Faton, et qui est une bonne un bon résumé de la visite qu'on peut voir au musée d'Orsay, un bon résumé de l'exposition en tout cas, et j'en ai profité pour inclure évidemment des œuvres de la Thomas Zélie Collection, puisqu'on a une trentaine d'œuvres de Louis Jeanmot finalement au sein de la collection. Et puisqu'il faut savoir qu'en fait quand vous arrivez on peut voir 150 œuvres accrochées sur les murs, mais notre collection compte 2300 œuvres en tout, ce qui est absolument immense. On a 3 réserves sur site, et donc en fait ça nous donne l'occasion de pouvoir faire varier l'accrochage. Voilà, on essaie de changer tous les 2-3 mois d'accrochage en cours.
Et donc, comme le lieu a ouvert en novembre dernier, je crois,
oui, c'est novembre
ça,
2022.
On en est qu'au troisième accrochage actuellement.
C'est ça. On a une exposition sur les dessins. Là, on est revenu à un accrochage qui est plutôt consacré à la peinture et assez général, en fait. Donc, on monte vraiment un panel de la collection. Ça passe par les natures mortes, la peinture religieuse lyonnaise, les paysages lyonnais, quelques œuvres aussi des mouvements lyonnais qu'on connaît peu, comme les Ignares, les Sensistes. Et puis, la prochaine exposition sera consacrée aux vues de Lyon et au paysage de la région. Alors l'intitulé exact, ce sera Lyon et sa région vue par les artistes. Et pour la première fois, on aura aussi des œuvres qui ne sont pas conservées au sein de la collection, mais qui nous seront prêtées par des collectionneurs privés que l'on connaît aussi, qui habitent à Lyon ou en proche périphérie.
Nous donnons beaucoup d'informations, c'est très bien. On est peut-être déjà sur le deuxième temps d'émission qui sera plus précisément là. Cet accrochage actuel, chef-d'œuvre de la peinture lyonnaise, nouvel accrochage, une exposition qui a commencé le 30 mai dernier, se termine le samedi 28 octobre prochain, ouverture du mardi au samedi, 10h30, 17h30. Peut-être que, avant donc de visiter ce lieu, un peu, il faudra bien donner les indications, car une fois franchi le portail, il faut s'avancer au 22 de cette rue Lord Diebold, vraiment à côté du métro Vaise, hein. C'est quoi, 5 petites minutes à pied, 7 minutes éventuellement, il faudra bien avancer, il faut monter ensuite des étages, mais avant d'être dans ce lieu, dans cette exposition. Est-ce qu'on pourrait revenir, bien, c'est un peu ce que vous étiez en train d'évoquer, on se l'était également dit récemment, ces peintres lyonnais. Je crois que je vais poser la question de cette manière. Pourquoi s'y intéresser? Alors, je vais commencer la réponse. Parce qu'ils sont intéressants, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont nombreux. On s'est dit qu'il y a une trentaine, cinquantaine de noms de peintres. Pourtaud, Cavaroc, Truffémus, parmi les plus connus peut-être. Vous avez évoqué à l'instant Borel, Orcel. On a évoqué Guiguet tout à l'heure, avec Gilles. Tous ces peintres, est-ce que vous pourriez peut-être aller en deux minutes? Non. Si vous le souhaitez davantage, Julia, pourriez-vous, comment dire, retracer une sorte de parcours de cette histoire de cette peinture lyonnaise? Est-ce qu'elle naît à un moment particulier?
Je crois que oui. Volontiers. Donc c'est vrai que chronologiquement, les œuvres les plus anciennes que nous avons, ce sont des œuvres du XVIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, les artistes lyonnais qui sont assez célèbres, nous avons Jacques Stella, nous avons Louis Crétet, Thomas Blanchet, et ce sont des artistes qui sont intéressants, qui ont fait le voyage en Italie, qui ont pu apprendre à peindre les architectures antiques, les modèles antiques, etc. Les œuvres de la Renaissance aussi, de l'Italie. Donc, ils ont rapporté tout cet enseignement. Et puis, donc, ce sont des artistes qui ont pu bénéficier de commandes religieuses quand ils sont revenus à Lyon. Au XVIIe siècle, Lyon prend de plus en plus d'importance aussi. C'est vraiment une ville de passage avant les Alpes, avant l'Italie. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui descendaient à Lyon avant de travailler sur les chantiers pontificaux, puisque du coup la papauté était en Avignon à cette époque. Et puis c'est vrai que après le XVIIe siècle, on a le XVIIIe, donc là on commence à avoir aussi beaucoup d'apparitions de gravures aussi, de dessins, et on a des artistes comme Jean-Jacques de Boissieu qui ont beaucoup dessiné la ville. Au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle, on a la création de l'école des Beaux-Arts de Lyon, alors école d'abord impériale, puis ensuite royale, puis finalement école nationale des Beaux-Arts, qui va vraiment consacrer l'école lyonnaise. Alors il y a d'abord une spécialité dans la fleur, puisque les artistes lyonnais vont d'abord beaucoup travailler pour ce qu'on appelle la fabrique, qui était la fabrique de soieries. Il fallait des artistes qui soient capables de dessiner des motifs pour les damas, brocarts, soieries, etc. Et puis finalement ce sont devenus des hommes autonomes à part entière. Et puis après certains artistes sont montés à Paris. On peut bénéficier d'ateliers et d'enseignements importants comme l'enseignement de Dingres. Ont eu des commandes un peu partout, et puis il y a beaucoup de styles qui sont nés, l'apparition aussi du paysage, du pleinérisme. On a aussi l'apparition du style troubadour.
Le pleinérisme, tout simplement, c'est le fait de pouvoir aller
Sur nature, peindre directement sur le motif.
En plein air.
C'est vraiment une avancée qui a été garantie par l'invention du tube de gouache en 1841, et aussi par l'apparition des voies de chemin de fer qui ont pu amener les artistes à voyager dans les campagnes aux alentours de Lyon, et qui ont pu enfin dessiner et peindre vraiment les effets atmosphériques sans forcément revenir en atelier pour faire le mélange des couleurs, puisqu'ils avaient du coup leur tube de gouache tout préparé.
On a évoqué Ingres, on pourrait évoquer aussi un autre nom. Quand vous avez prononcé le nom de Jacques Stella, il me semble qu'il y avait autour de lui un condisciple, il avait un collègue qui a eu ça une bonne notoriété.
Alors, en condisciple de Stella, on a Nicolas Poussin.
Voilà. C'est à lui que je pensais, Julia. C'était bien à lui que je pensais.
Ils sont très liés. C'est vrai qu'ils ont été tous les deux peintres du roi. C'est le cardinal de Richelieu qui a proposé à Jacques Stella de devenir peintre du roi et qui lui a attribué un logement au Louvre. Et donc, ce sont des artistes qui ont pu bénéficier de grandes commandes, qui sont présents au Louvre et qui à eux deux, personnifient le classicisme français, vraiment.
Auditeur, auditrice, beaucoup d'informations. Je vous propose une petite pause musicale avant de. On va peut-être encore. Oui, je pense qu'on nous allons encore donner quelques informations, même peut-être des révélations. Vous allez voir, il y a un peintre qui a un sort tragique. Donc, nous allons encore parler de ces peintres et plus précisément de l'accrochage. L'accrochage, le dirais-je encore une fois, l'accrochage qui a lieu à la galerie. La Tomaselli Collection, qui se situe au 22 rue Lord Diebold, c'est dans le 9e arrondissement, c'est pour ceux qui se déplacent en transport en commun, la station, j'ai dit Vez, oui c'est ça, c'est métro Vez, c'est le terminus, c'est le terminus, donc c'est très, très, très pratique pour s'y rendre. Et donc l'accrochage actuel, nous sommes le 27 septembre, encore un mois, jusqu'au samedi 28 octobre. tarif tout de même modéré, on ne l'a pas indiqué, c'est 10 euros tarif plein, 8 euros tarif réduit, et pour les moins de 18 ans, Jérôme Tomaselli a été sensible à sa propre expérience de jeune spectateur d'œuvre pour les moins de 18 ans.
C'est gratuit.
C'est gratuit. Donc peut-être, enfin non pas peut-être, pause musicale, qu'est-ce que nous écoutons, Julia? J'ai donc le Basquiat d'Arthur Ashe, le Ape Shit des Carters. Les Carters, c'est le nom du couple, c'est ça? C'est
oui, Beyoncé, c'était, du coup, Beyoncé et Jay-Z, et Jay-Z. Qui ont fait un clip au Louvre. Mais peut-être qu'on peut écouter Basquiat en premier.
Eh bien très bien, d'Arthur. Basquiat. Nous allons donc ensuite continuer à évoquer les peintres. À évoquer l'accrochage, parce que je crois même que Julia, c'est vous qui vous y êtes attelée à cet accrochage, me semble une
oui,
bonne
anecdote. Oui, avec ma collègue et...
Avec Ambre.
Voilà, avec Ambre et puis aussi Antonio, qui est notre roi, qui nous aide beaucoup, donc...
C'est difficile un accrochage, hein, vous le direz certainement, il faut quand même mesurer différentes choses.
Oui, il faut utiliser un laser aussi pour positionner les œuvres droit, enfin voilà, il faut tout un tas de choses, il faut des simèses adaptées, il faut un bon éclairage aussi, bon, on en parlera.
Écoutons Basquiat de Arthur Ashe et nous reprenons, nous continuerons ensuite plus précisément, nous évoquerons donc l'accrochage de ces chefs-d'œuvre de la peinture lyonnaise à la galerie à la Tomaselli, collection qui se trouve bien à Lyon. Ah, Basquiat ne lance pas tout de suite de Arthur Ashe. Ah oui, ben forcément, si je ne fais pas tout ce qu'il faut, là ça va aller. Si, ça va démarrer. Le voici, donc Arthur Ashe, Basquiat. Il n'y a pas de clip là, je ne l'ai pas. Donc si vous souhaitez, auditeur, auditrice, voir sur le site, ce ne sera pas forcément possible.
Comment je peux peindre? Oh, comment je peux peindre? Oh, comment je peux peindre? Oh, comment je peux peindre? Hey, Saul, comment je peux être plus productif, plus créatif, comme Basquiat, man?
Je sais pas. Drink more.
Comment je peux être?
Smoke more.
Oh, comment je peux être?
Je sais pas.
Oh, comment je peux être?
What you gonna do?
Oh, comment je peux être? Le chercheur d'or a trouvé l'or. Je mange la terre rouge, je bois l'asphalte noir et je crache sur la toile des signes préhistoriques qui éblouissent le futur. Je suis le roi courroucé, je suis l'amoureux blessé. Ma couronne de diamant, ma couronne de feu, ma couronne de sang. Je la dépose tendrement sur ton sexe offert, puis je la jette dans la gueule de la lumière. Oh, je suis Jean-Michel Basquiat, je suis Jimi Hendrix, je suis Charlie Parker, je suis une superstar, je suis une méga superstar. Ma navette spatiale explose en plein vol. Oh, Black Moon, narcotique, Blue Balloon, cher Mr. Ogun, créateur du Big Bang. J'arrache à Picasso son pinceau sexuel, et avec ce pinceau sexuel, je repeins le monde, et le monde n'a plus la même couleur. Je repeins le monde, et le monde n'a plus la même couleur, yeah.
Boom, chante-t-il, un titre Basquiat de Arthur H. Merci Ambre d'avoir proposé pour la programmation musicale ce titre très, très intéressant. Nous parlons bien avec, j'ai dit Ambre, Julia, non ? Qu'est-ce que j'y arrive
oui,
pas.
Oui, Ambre, c'est ma collègue.
C'est, voilà, c'est votre collègue, Julia. Nous parlons bien des chefs-d'œuvre de la peinture lyonnaise, Nouvel Accrochage. Cette exposition a lieu, elle a commencé déjà le 30 mai dernier. Donc c'est une belle durée, tout juin, tout juillet, tout août, tout septembre, et cela court jusqu'au samedi 28 octobre prochain. C'est à la Tomaselli Collection, 22 rue Laure Diebold, dans le 9e arrondissement. Voilà, je le redis encore une fois, métro V, c'est quand même très pratique. Tarif doux, 10 euros, 8 euros, tarif réduit, gratuit pour
même
les...
Même 6 euros, tarif réduit
même
pour
6
les
euros, voilà, là, voilà.
Et on vient de se mettre sur le pass culture, ce qui fait que même les jeunes de 18 à 20 ans peuvent bénéficier de la gratuité, puisque c'est le pass culture qui prend en charge l'entrée, voilà. Donc il suffit juste d'aller sur son appli et de réserver le créneau, et le pass culture prend tout en charge, donc ce qui est très bien.
Et donc, une fois qu'on a fait tout cela, qu'on se rend au 22 rue Laure Diebold, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est la première galerie lyonnaise, enfin il me semble que vous l'avez dit, oui, que c'est la première galerie lyonnaise privé qui ouvre au public.
En fait, première collection privée, on va dire.
Oui, c'est vrai, je n'arrive pas à dire galerie, non, c'est collection.
Ouverte au public, voilà.
Tomaselli Collection. Et donc, il faut trouver un peu le lieu, parce que ce sont les bâtiments de l'entreprise, c'est ça de,
oui, en fait, ce sont des locaux d'entreprise. En fait, M. Tomaselli, quand il s'est installé à Vaise, a voulu mettre ses activités au même endroit. Donc, c'est vrai qu'en dessous de nous, on a l'autre entreprise qui s'appelle GXP Manager et qui fait partie, voilà, de l'autre activité de Jérôme. Et voilà, donc les employés se trouvent un étage en dessous de nous et dans le bâtiment d'en face aussi. Et ce qui fait que c'est bien, on est tous regroupés. Voilà.
Donc il faut monter au deuxième étage.
Deuxième étage, on a un parking, donc ce qui fait que c'est accessible aussi pour les gens qui viennent en voiture, parce que c'est des fois pas toujours évident de trouver une place à Vaise. Mais du coup voilà, on a des places de parking, une vingtaine de places qui sont dévolues aux visiteurs de la Tomaselli Collection.
Et alors une fois qu'on entre dans cet espace, c'est quand même grand, non ? Il y a quoi ?
On a 600 mètres carrés d'exposition, plus une coursive extérieure, ce qui fait que l'espace est très grand. Il est modulable aussi, on a des salles de réunion, on a un hall d'entrée, ce qui fait qu'on peut privatiser aussi simplement pour une matinée ou pour quelques heures s'il y a un séminaire. Voilà, on peut privatiser une salle de réunion ou la galerie tout entière, ça dépend.
Et donc quand on entre, il y a une sorte d'accueil à gauche, et puis on ne l'a peut-être pas tout à fait dit, à droite, tout à fait indiqué, à droite il y a des sortes de boutiques, parce que vous, si, il me semble que vous l'avez indiqué, Julia, vous avez dit, vous vous assurez également de vous occuper des éditions.
C'est ça, en fait on a une politique d'édition, en fait, puisqu'on essaie de faire un catalogue d'exposition par exposition temporaire justement. Là le catalogue 3 va sortir début octobre pour l'exposition en cours, et pour la première fois avec ma collègue Ambre, on a passé beaucoup de temps en fait à faire des recherches, et donc on va avoir un catalogue avec beaucoup de textes, donc très fournis au niveau des textes, des biographies d'artistes et de la contextualisation. Donc on est très heureuse que le catalogue sorte, et puis on va le proposer à la vente pour un prix assez modique d'une douzaine d'euros, ce qui n'était pas le cas pour les précédents catalogues qui étaient plus iconographiques et assez chers finalement, et là cette fois-ci il sera beaucoup plus abordable.
Et il y a également dans cet espace une sorte de buvette un petit peu, enfin comment dire,
on a un espace café, et c'est vrai que cet été c'était assez appréciable pour les visiteurs, voilà, ils peuvent commander tout ce qu'il faut, des rafraîchissements, iced tea, coca, etc. On peut aussi servir de l'eau fraîche, des thés chauds, des choses comme ça, et on a plusieurs petites tables où les visiteurs peuvent s'asseoir, il y a aussi la coursive qui est accessible, donc tout cet espace boutique plus café, il est assez, assez chouette, et tout ça au milieu des œuvres, c'est vrai qu'on n'a pas de restrictions.
Voilà. Visuellement, on est accueilli par, de mémoire, il y a des Jean Mau, plusieurs, dont une acquisition assez récente, un beau Saint-Jean-Baptiste, et puis il y a même aussi un Truffémus qui est sur une colonne.
Tout à fait, un beau Truffémus qui présente un intérieur dans sa maison, dans le village Le Vigan, qui est dans les Cévennes, je ne sais pas si on dit Le Vigan ou Vigan, je ne sais pas, et en tous les cas, c'est un lieu qui s'est mis à peindre à partir de la mort de sa femme, puisque sa femme était originaire de ce village-là, et c'était vraiment... quelque chose d'important pour lui, et c'est quelque chose qu'il a représenté dans sa peinture à partir du décès de sa femme bien-aimée, qui s'appelait Aimée aussi d'ailleurs, et à partir de la mort de sa femme, il a également arrêté de peindre les visages, donc on voit vraiment une évolution dans sa peinture, C'est très intéressant.
Jacques Truffemus coche bien les cases des peintres dont Jérôme Tomaselli possède de nombreuses œuvres, parce qu'à défaut d'être né à Lyon, il a quand même beaucoup travaillé à Lyon, et puis je crois qu'il y décède en 2017.
C'est ça, il a beaucoup travaillé à Lyon. Bah, ça me fait plaisir qu'on évoque Truffemus, parce que je sais que c'était un homme extraordinaire et qui était très gentil. Faut savoir qu'il a beaucoup représenté les cafés de Lyon, les bistrots, les vues de la ville aussi. Il était très inspiré par les Nabis, il avait fait un voyage au Japon, donc on retrouve vraiment une grande sérénité dans son œuvre. Et en fait, il mangeait souvent à midi au Café de la Cloche à Bellecour, et il était très accessible quand on le voyait. Il invitait les gens des fois à déjeuner avec lui.
L'auriez-vous connu vous-même, Julia?
Non, enfin du
tout. Vous avez entendu dire?
Je l'ai entendu dire, et puis je sais que mon père lui a fait signer des gravures pour un cadeau, voilà, pour ma maman, et Truffemus avait accepté avec plaisir. Il avait dit oui, c'est bien des gravures de mes œuvres, et donc il avait signé et puis mis un petit mot, alors que mon père ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Il avait simplement rejoint au café Bellecour, donc voilà ce qui...
J'ai pu le rencontrer, moi, seulement le croiser à quelques occasions, oui, je crois que tout de même plusieurs fois, et effectivement, cela correspond au personnage, à ce que vous indiquez. Moi, j'aime bien, est-ce qu'on pourrait peut-être dire deux mots de sa palette, comment qualifier c'est son mauve ou son violet, où est-ce qu'il va le chercher, c'est formidable,
oui,
et puis même les autres couleurs, vous avez parlé de sérénité,
oui.
C'est tout à fait ça.
Sérénité, est-ce que ça lui vient de son voyage au Japon, je sais pas, j'ai l'impression que c'était déjà aussi un petit peu le cas dans les œuvres précédentes. Il est inspiré par les Nabis, donc c'est vrai que les Nabis sont connus pour avoir une palette très décorative, très neutre, très, très sereine et paisible aussi. Il y a quelque chose qui tient aussi un peu de l'intériorité, je ne vais pas dire de la religion, mais il y a quelque chose de très serein. Et puis effectivement, il emploie des tons très pastels, très doux, même si bon, de temps en temps, il se démarque avec une œuvre au ton très chaud. On a vendu une peinture de Truffemus il n'y a pas longtemps à un marchand niçois, et qui était une peinture avec un jaune d'or très soutenu, et puis une femme, une japonaise Osaka, dans un vêtement très bleu pâle, et donc voilà, donc il y a plusieurs...
Vous avez parlé de religion, donc on est accueilli aussi par ce Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste de Louis Jeanmot. Et puis il y a une autre œuvre aussi, vous pourriez volontiers, je pense, en dire un mot, mais j'aimerais associer également l'autre œuvre qui se trouve vraiment au-dessus de cette partie de l'étal où se trouvent les différents ouvrages. C'est ce fameux rose, c'est le Médard, c'est ça, c'est lui?
Oui, alors Médard, c'est un peintre qui a plutôt réalisé des peintures de fleurs. C'est un bon exemple de ce que savent faire les Lyonnais en termes de peintures de fleurs, justement. Et en fait, il s'est vraiment illustré dans ce qu'on appelle le rose Médard, c'est-à-dire que quand on voit une œuvre de Médard, donc là en l'occurrence chez nous ce sont des pivoines, c'est un bouquet de pivoines, mais il fait un rose avec beaucoup de blanc dans sa palette, et il est très reconnaissable, on arrive à retrouver l'artiste grâce à sa palette.
Elle est immense, cette toile?
Elle est assez grande, c'est un grand format, elle doit faire plus de 2 mètres de hauteur.
Alors que Jeanmot, ce n'est pas une toile?
Jeanmot, c'est un panneau de bois.
Acquise.
Un panneau de bois, tout à fait. Alors, feuilles d'or et huile sur panneau, qui représente un Saint Jean-Baptiste dans le désert, et qu'on a acheté à la TFAF de Maastricht, qui est une grande foire de l'art ancien, voilà, qui se trouve à Maastricht et qui est annuelle, en fait. Donc, tous les ans, on a la possibilité d'y aller. Et on l'a acquis à cette époque-là. C'est une œuvre qui a bénéficié d'une grande restauration parce qu'elle était abîmée. Et on est très heureux de la présenter aujourd'hui. C'est vraiment un fleuron de la collection. Et voilà.
Dans le visage de ce Saint Jean-Baptiste, moi, j'ai le sentiment de reconnaître un peu de Victor Borel. Non, c'est Victor Orcel.
Victor Orcel, oui.
J'ai le sentiment de reconnaître du Borel qui, lui, se trouve au fond de l'exposition. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait donc enfin entrer? Là, on était dans l'espace accueil. Et quand on entre, là, cette toile dont je parle, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait, plus ou moins chronologique, l'accrochage. Il y a deux cretais, je crois, sur la gauche. Mais si on va chercher le Borel dont je parle, oui, dans ce visage, j'évoquais du sfumato. Non, c'est pas sfumato, mais il y a une forme de halo. C'est ça,
de halo, oui. Alors Paul Borel, il fait partie de la seconde génération de ce qu'on appelle les peintres apôtres de Lyon, c'est-à-dire que c'est un peintre qui a eu aussi beaucoup de commandes de la part des institutions religieuses. Il a peint par exemple à la chapelle de Saint Thomas d'Aquin à Oullins. Il a aussi fait beaucoup d'eaux-fortes, etc. D'ailleurs, il a été édité par Félix Thiollier, qui a édité beaucoup d'ouvrages des artistes lyonnais.
Et sur le Forez, je crois aussi.
Sur le Forez, le Forez monumental et pittoresque. Et donc Paul Borel, on a la chance d'avoir un autoportrait au sein de la collection et effectivement il y a un halo un peu lumineux qui entoure Paul Borel qui se représente en s'idéalisant. C'est vrai qu'il était beaucoup moins beau dans
une
anecdote.
Vous avez une anecdote hein, je crois sur, enfin c'est pas une anecdote, c'est un secret,
oui.
une clé de compréhension de
fait,
cette œuvre.
En fait on pense que c'est un autoportrait qu'il a fait à destination de sa fiancée Adèle Mouton, voilà, qui cherchait à séduire et donc à l'époque il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, donc c'est vrai qu'il lui a sans doute envoyé cet autoportrait pour lui montrer un peu sa figure et pour s'idéaliser. Il en a profité pour s'idéaliser et ça a marché puisqu'ils se sont mariés l'année suivante. Voilà. Mais donc c'est vrai que ça permet aussi de retracer un peu toute l'histoire de l'autoportrait. D'ailleurs, il y a une très belle exposition sur les autoportraits au Puy-en-Velay en ce moment. Et c'est le développement aussi de l'individualisme, de la miroiterie aussi, qui fait que du coup les artistes peuvent se représenter, ont plus de facilité à se représenter aussi.
On est sur quelles années, quelle période? C'était début 19e, c'est ça?
Oui, 1850, voilà.
Et bon, on a fait un bond pour passer de ce Saint-Jean-Baptiste à cette œuvre de Paul Borel. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, présenter certaines des œuvres? C'est assez organisé. Il y a une sorte de couloir dans lequel il y a quelques paysages surtout. Et puis
oui.
Après, on retrouve la jeune fille au chat de François Guiguet se trouve un peu plus loin, je crois.
Elle se trouve au milieu de l'exposition. C'est l'œuvre que l'on a utilisée pour l'affiche, justement. Et c'est la nièce de Guiguet qui le représente. Et c'est vrai qu'on dirait presque un dessin, parce qu'il utilise des tons et une palette qui est proche de ce qu'on retrouve dans les techniques d'art graphique comme la sanguine, comme le crayon de papier, comme l'aquarelle, etc. Et on a presque l'impression que c'est une aquarelle avec crayon et rayons de craie blanche et sanguine, mais c'est bien une huile sur toile. Donc cette œuvre est magnifique et Guiguet a accordé beaucoup d'importance au regard, à l'acuité des regards des modèles. Il a peint beaucoup de portraits de famille et les jeux de regards sont toujours très intéressants. On a beaucoup d'œuvres qui sont vraiment très intéressantes aussi à commenter. On a notamment une grande nature morte de Jean-Baptiste Laïs qui date de 1877 et qui est intéressante puisque Laïs c'est un des peintres lyonnais qui n'a pas bénéficié de formation académique, qui n'a pas bénéficié du parcours de l'école des Beaux-Arts et qui en fait est fils d'une famille de paysans forésiens. Ils étaient 13 enfants et donc il est rentré à l'âge de 12 ans dans l'atelier d'un peintre lyonnais qui s'appelait Simon Saint-Jean. Mais Simon Saint-Jean, du coup, lui a bien appris à dessiner, mais lui a interdit de pratiquer la technique à l'huile sur toile. Et ce qui fait qu'il a été cantonné à l'aquarelle pendant assez longtemps. Et il a dû attendre la mort de Simon Saint-Jean en 1860 pour enfin s'adonner à la peinture à l'huile. Et là, on voit vraiment à quel point c'est un succès parce qu'il est vraiment maître dans l'art de représenter les natures mortes, les fruits, les feuilles de vigne et la composition que nous présentons.
Une épaisseur, c'est ça? Enfin, du moins, une matérialité? Comment qualifier tout ça?
Une matérialité, un rendu réaliste, je dirais, mais qui emprunte aussi à la mysticité. Il y a toujours une lecture morale un peu derrière les œuvres de Laïs, puisque voilà, les raisins peuvent faire référence à l'Eucharistie, l'amphore en terre cuite, donc, qui est par essence fragile, renvoie à la vanité, à la fragilité de l'existence. Donc il y a toujours des lectures aussi.
Et c'est encore un grand format, je crois, celle-ci.
C'est un grand format encore, voilà. Plus de 2 mètres également, et qui est présenté dans le fond de l'exposition. Et puis on a d'autres artistes, alors peu connus, mais qui méritent tellement qu'on en dise deux mots. Par exemple, un artiste qui s'appelle Seigne Martin, qui est mort très jeune à 27 ans, mais qui a une grande importance sur tout un pan de la peinture lyonnaise, qui a inspiré de nombreux artistes comme Cavaroc, etc. Et Seigne Martin, voilà, il était élève de Joseph Guichard, qui était professeur à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Il est très inspiré par la palette de Delacroix, et pour la première fois, on voit vraiment les coups de pinceau, des tons très chatoyants. Ses parents étaient des soyeux, donc on retrouve un peu des tons chauds qu'on pouvait trouver dans les soirées aussi. Et voilà. Et donc, il est mort très, très jeune et il a demandé le jour de sa mort à ce qu'on lui apporte toutes ses œuvres les plus belles en force et en vie pour lui donner du courage. Et
Et voilà. Il s'est éteint.
Il s'est éteint.
Il y a une autre, je l'évoquais tout à l'heure, hein, je crois, il y a une autre mort tragique. On évoquait Cavarock, c'est dans la même salle, je crois, dans la même...
Alors, Cavarock est un pointilliste, mais celui qui a une mort tragique...
Ce n'est pas lui.
C'est un pointilliste aussi également, mais qui s'appelle Léon Pourtaud, et qui en fait a appris la technique pointilliste, donc c'est-à-dire la technique post-impressionniste qui permet de composer une œuvre avec des points de couleurs différents.
Il l'apprend auprès du maître, c'est ça, carrément?
Il l'apprend auprès de Georges Seurat, qui est un des premiers post-impressionnistes, donc à Paris. Et puis, il rejoint les États-Unis, puisqu'il était aussi musicien de carrière. Donc, il commence à faire une tournée aux États-Unis. Le but pour lui, c'était vraiment de gagner sa vie avec la musique et puis de pouvoir après se consacrer à la peinture en Europe. Et puis, finalement, il est mort dans le naufrage de son paquebot, la Bourgogne, en 1898, quand il n'avait pas encore 30 ans. Et ce qui fait qu'il a sombré avec les trois quarts de sa production picturale. Et donc, les Léon Pourtaud sont très rares et on a la chance d'en avoir au sein de la Tomaselli Collection. Et on a la chance d'avoir surtout un paysage de bord de Saône traité avec la technique pointilliste, ce qui est assez rare.
Il y a aussi, j'indiquais quelques anecdotes, peut-être souhaiteriez-vous boire un peu? Est-ce qu'on diffuse un titre ou est-ce qu'on continue? Je pensais à les femmes. Ou peut-être pour les femmes, est-ce qu'on peut justement marquer une pause et puis on reprendra, parce qu'il y a encore tant d'heures à évoquer, rassurez-vous auditeurs, il nous reste encore un bon quart d'heure, le blues des canuts ne va pas commencer tout de suite, et puis rassurez-vous également, il reste encore un bon mois jusqu'au samedi 28 octobre pour se rendre dans cet espace, je vais cesser de dire galerie, à la Tomaselli Collection, donc... pause, que ce que nous pourrions écouter les Carters avec le titre Ape Shit, qui est à voir, hein, peut-être, ça a plus qu'à écouter, quoi que je suis, écouter, c'est également du bon rap de Jay-Z, et sinon il y a le Gotta is Somebody That I Used To Know.
Partons là-dessus.
Sur celui-ci, ben très bien, merci encore Julia, c'est vous qui avez assuré cette programmation musicale, à part le champ de blé initial avec Philippe Catherine et de Gaëtan Nonchalant. Nous allons continuer ensuite à évoquer peut-être des petites salles, je pense donc à... Je crois que c'est la même salle, hein, celle où se trouvent le Pourto, Cavarock, oui. Et puis les Charmy, également Marval et puis d'autres. Il s'agit bien de la galerie, l'espace Tomaselli Collection, qui se trouve au 22 rue Lord Diebold, dans le 9e arrondissement, métro Vaise. Et nous poursuivons tout d'abord avec un peu de musique, Gotai.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Change it.
n'est pas très beau. C'est précisément, je coupe là où on entend une voix féminine. Et nous nous apprêtons pourtant, quelle ironie, nous apprêtons à, avec l'invité Julia Biel de la Tomaselli Collection, nous apprêtons à parler un peu des peintres. Le mot féminin n'existe pas, je crois que c'est un mot épicène, il est masculin et féminin. Les peintres, mais surtout quand on dit peintre, on pense peut-être plutôt au masculin, donc les peintres femmes. Ces peintres femmes qui sont toujours, vais-je le redire, oui je le redis auditeur, auditrice, ils sont exposés dans les chefs-d'œuvre de la peinture lyonnaise, nouvel accrochage. Exposition qui a, une exposition qui a commencé avant l'été, le 30 mai dernier, qui se termine, ce sera l'automne, oui, c'est déjà l'automne, qui se terminera le 28 octobre, le samedi 28 octobre prochain. Et donc c'est la Tomaselli Collection qui se trouve à Vez, oui c'est ça, c'est quartier Vez. Et donc voilà, on est en train encore avec Julia de parcourir ce nouvel accrochage et c'est un petit peu décousu mais quand même on a passé l'accueil, on a laissé creuter sur la gauche qui sont les toiles, vous l'aviez dit tout à l'heure, les plus anciennes. Et puis on a continué à avancer, donc on est arrivé, on a vu le Paul Borel et puis l'Aïs qui est sur le mur du fond, c'est ça, je crois, tout à fait. Et puis ensuite on a fait un retour en arrière pour aller dans une salle qui est sur le côté avec les pointillistes.
C'est ça.
Et puis c'est là qu'on a aussi donc ces fameuses peintres qui seront, je me suis laissé dire, qui seront également pour le coup à l'affiche prochainement.
Oui, alors on prévoit de faire une exposition alors en juin prochain sur masculin-féminin. Donc voilà, ce sera l'occasion de vraiment montrer le travail des artistes femmes et aussi voilà, qu'est-ce que c'est que peindre une anatomie également, qui peint les anatomies, voilà, enfin en tous les cas, il y aura des thématiques vraiment là-dessus. Il y avait une exposition au musée d'Orsay qui s'appelait Masculin-Masculin, mais là on va vraiment mettre les deux en évidence. Donc.
Et donc vous l'aviez bien dit en début d'émission sur plus de 2000 œuvres que Jérôme Tomaselli possède. Là actuellement sont exposées moins de 200, 150, vous avez indiqué.
Voilà, on a à peu
donc,
près 100.
Ce sont d'autres œuvres. Il y a encore d'autres œuvres qu'il possède, qu'il détient et des œuvres. Alors est-ce qu'on peut les nommer? Quelles sont ces peintres? Elles ne sont pas si nombreuses que ça finalement. Il y a 5, 10 noms.
Oui,
peut-être.
Malheureusement, l'historiographie fait qu'on n'a pas retenu beaucoup de noms d'artistes femmes. Elles sont pourtant très présentes, hein, même depuis le XVIIe siècle, depuis les débuts de l'histoire de l'art. Mais elles ne pouvaient pas bénéficier, voilà, des ateliers, des formations. Ça a été souvent interdit aux femmes très longtemps. Souvent elles étaient obligées d'avoir un père ou un frère qui puisse leur apprendre la technique. Mais quand même, il y a eu quelques évolutions. Elles avaient le droit d'aller à l'Académie de peinture sous l'Ancien Régime, donc sous les rois de France. Et puis l'apparition du Premier Empire et de Napoléon leur a interdit l'accès au système de l'école des beaux-arts, au système de formation. Il a fallu attendre 1880, donc la fin du 19e siècle, pour avoir la première femme à l'école des beaux-arts de Paris. Et puis, les ateliers d'artistes femmes sont venus encore plus tard, dans les années 1900-1905. Et puis, à nouveau, certains cours étaient interdits, comme les cours d'anatomie, les cours de nu, donc difficile aussi pour se former. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a voulu mettre en lumière les femmes artistes qui sont aussi présentes dans la création lyonnaise. Il y en a plusieurs accrochées au cours de l'exposition. On peut citer notamment Thérèse Guérin, qui est justement une artiste femme qui a eu un atelier et qui a participé à la formation artistique de beaucoup de femmes. On a Jacqueline Marval, qui est une peintre fauve, qui a été qui a travaillé à Montparnasse à Paris, qui a été la compagne de Jules Flandrin, un autre peintre accroché au cours de l'exposition. Voilà. Et puis Émilie Charmy également, qui est présente avec un bel autoportrait. Voilà.
Je me faisais deux remarques à l'instant. Je me demandais si j'avais bien nommé le titre qu'on écoutait tout à l'heure, Gotha is somebody that I used to know. J'ai coupé au moment où on entendait une voix féminine et je me demande justement cette invisibilisation. Je crois que c'est le terme qu'on peut employer aussi concernant ces peintres qui on n'a pas permis de faire des tableaux, puis ensuite qu'on n'a pas éventuellement montré. Vous qualifiez Jacqueline Marval de compagne de Paul Flandrin. Et est-ce que cela est à mettre à son honneur ou est-ce que ce n'est pas plutôt Paul Flandrin qui a été compagne compagnon de la grande peintre Jacqueline Marvel. Ce que je veux dire, c'est quelle vous Julia par exemple vous auriez une préférence pour l'un pour l'autre, peut-être justement pour Jacqueline ou au contraire ou non, est-ce qu'il y a une palette différente, est-ce qu'il y a, enfin je sais pas comment les différencier et ne pas les qualifier l'un par rapport
à
l'autre.
Ils sont tous les deux assez différents. Jacqueline Marvel elle réussit à avoir un art très singulier, donc on arrive vraiment à reconnaître son style une fois qu'on a vu plusieurs de ses toiles. D'ailleurs, son œuvre est très intéressante. Il y a un comité Jacqueline Marvel qui s'est créé à Paris, qui est présent dans le 16e arrondissement, donc pas très loin des Champs-Élysées, et justement qui nous ont contactés puisqu'ils sont en train de réaliser le catalogue raisonné de l'artiste. Et voilà, justement, ils ont pu inclure notre œuvre qui présente une jolie ballerine en train de rattacher son chausson. Alors c'est vrai que Jacqueline Marvel, est-ce sa faute ou non, elle est restée cantonnée à des sujets féminins, c'est-à-dire représentation de la femme, du sujet féminin, de scènes de genre, etc. C'est vrai que les femmes, on les voit moins dans la peinture d'histoire, etc. Son art reste très intéressant. Sa palette aussi a bénéficié de beaucoup d'influences, notamment de l'influence fauviste, des peintres comme Kees van Dongen, par exemple. C'est vraiment une artiste très intéressante pour l'histoire de l'art et qui a été classée parmi les meilleurs. Elle a profité d'un système de galeries. Ça a été une des premières artistes à exposer aussi aux États-Unis. Il y a des œuvres d'elle qui ont été présentes à l'exposition de l'Art Morichaud, etc., aux États-Unis. Donc voilà. Et elle a exposé aussi durant des expositions universelles. Donc
ah, c'est très bien. Auriez-vous tant à dire au sujet de Paul Flandrin ou
alors du coup c'est Jules Flandrin.
Jules. Ah, c'est Jules.
Oui, non, parce qu'il y a la fratrie des frères Flandrin au 19e siècle. On a vraiment voilà Hippolyte, Paul Flandrin, etc. Et Jules Flandrin ne fait pas partie de ces trois frères-là. Mais tant à dire sur Jules Flandrin, oui, quand même.
Non, moi j'aurais bien aimé que vous disiez non, mais je vous en prie, oui, Julia.
Non, bah il faut quand même rendre hommage à cet artiste, mais voilà, donc compagnon de Jacqueline Marvel pendant plus de 30 ans. Et puis il est présenté au sein de l'expo avec une œuvre très dionysiaque, très moderne, parce que c'est une œuvre de 1906, et donc on est très tôt dans l'histoire de l'art, et pourtant elle présente vraiment un point de vue, un cadrage très moderne. Les ombres sont bleues et vertes, elles ne sont pas faites en noir, par exemple, et on est vraiment dans les couleurs criardes, fauvistes, et puis dans un sujet dionysiaque et musical. C'était aussi un artiste qui était musicien, qui aimait beaucoup la musique, donc ça c'est très chouette si on est un peu amateur.
On a plus ou moins tout parcouru. Non, si, il manquerait les toiles beaucoup plus récentes. On a évoqué tout à l'heure Jacques Truffémus, décédé en 2017. Je crois qu'il y a un, voire plusieurs peintres qui ne sont pas décédés et dont Jérôme Tomaselli possède des œuvres et dont même certaines sont exposées. Enfin, j'emploie un pluriel. Si, je crois qu'il y en a plusieurs.
Oui, c'est ça. C'est vrai que l'art contemporain et la scène artistique lyonnaise d'aujourd'hui ne représentent pas la majorité des œuvres que l'on possède. C'est vrai qu'on a beaucoup d'œuvres qui sont des œuvres du 19e siècle, hein, tout simplement, parce que ça correspond au goût aussi de M. Tomaselli, mais on a quand même des artistes qui ont touché son cœur et qui sont bien présents de nos jours, comme Patrice Giorda, artiste très présent dans les galeries. Aujourd'hui, il a été exposé il n'y a pas longtemps dans une galerie à Paris, et il est présent au sein de l'accrochage par une toile qui s'appelle Le Pape Rouge, et qui est un hommage à l'œuvre qui s'appelle Le Pape Innocent X de Velázquez. Voilà. Patrice Giorda aime beaucoup le peintre Velázquez, qui est un peintre espagnol du siècle d'or espagnol, et il a rencontré ses œuvres durant un grand voyage qu'il a fait à Madrid dans les années 2010, et il a peint toute une série de tableaux hommage à Velázquez, et donc on a la chance d'avoir une de ses peintures à la collection. Et puis on a aussi Marie-France Chevalier qui est présente au sein de la collection, qui est une artiste qui a commencé dans les années 80 à exposer. Aujourd'hui elle habite dans le Vercors, et en ce moment elle fait des séries de peintures consacrées à son jardin, à l'environnement du Vercors aussi, auquel elle a accès, et elle va jusqu'à vraiment mettre des herbes de son jardin, de la terre de son jardin dans ses toiles. Donc c'est une peinture très tactile. Elle est aussi inspirée par l'expressionnisme abstrait américain, pardon. Elle est inspirée aussi par Joan Mitchell, par Monet, par l'impressionnisme. Donc c'est une peinture magnifique.
Je recherche aussi je suis sur le site auditeur auditrice, on n'a même pas indiqué, je n'ai pas donné le lien pour se rendre sur le site, très simple, hein, tomaselli-collection.com, tomaselli, T-O-M-A SE2LI-collection avec deux L, hein, comme c'est tout à fait normal. Et donc, un site très, très agréable qui, justement, il est formidable. Il propose de voir beaucoup d'œuvres, mais. Enfin, disons pas toutes, et tant mieux. Si on veut en voir davantage, il faut s'y rendre. J'étais en train de penser à ces œuvres-là. Est-ce que je retrouve Cavarock? Très bien, non? Je parcours. Je pensais à ces œuvres assez. Voilà, j'ai trouvé le port de Saint-Tropez. Qui est l'auteur du port de Saint-Tropez? Est-ce que vous l'avez en tête,
oui,
Julia?
C'est le peintre qui s'appelle Lachiezeray.
C'est lui qui est un peintre contemporain.
Ouais, alors oui, en fait, il est décédé en 1974 dans un accident de voiture, mais on a des œuvres.
Ah ben, l'œuvre date de 59.
Voilà, hein, qui date de 59, des années 60. C'est un peintre qui a beaucoup inspiré Jacques Truffémus, par exemple. En fait, il a travaillé beaucoup dans une matière très épaisse, avec beaucoup de matérialité, ce qui fait que quand on est vraiment devant une œuvre de Truffémus à 10 cm, on n'arrive pas à distinguer le sujet. Il faut vraiment se reculer.
De Lachiezeray, plutôt. Vous avez dit Truffémus à l'instant.
Ah, non. Lachiezeray, quand on est devant une œuvre de Lachiezeray, excusez-moi, non. En fait, on a du mal à distinguer le sujet tout de suite. Il faut se reculer un peu. Et là, vraiment, bah, tout prend forme. On retrouve les bateaux, on voit bien les bateaux dans le port, etc. Et donc, c'est un peintre qui a aussi représenté les cafés, les restaurants lyonnais. On a aussi dans l'exposition une œuvre de Lachiezeray qui s'appelle Le Restaurant Gris. Mais il a aussi fait Le Restaurant Rouge, Le Restaurant Jaune. Et c'est vraiment voilà, la restitution de toutes ces ambiances qu'on pouvait trouver dans le Lyon des années 50, 60, des ambiances de bistrot, de cantine, voilà.
Auditeur, auditrice, il est bientôt 15h, vous l'aurez compris, si vous avez la chance de trouver Julia quand elle est présente à la Tomaselli Collection, peut-être pourra-t-elle également vous donner quelques indications, quoi qu'il existe des visites guidées, on peut réserver des visites guidées, d'ailleurs est-ce vous qui les assurez?
Non, oui, c'est ma collègue Ambre et moi qui assurons les visites guidées, on en a une, on a un créneau hebdomadaire qui est là tout le temps, c'est celui du mercredi à partir de 14h, et après sinon on peut faire une visite guidée sur demande, voilà, s'il y a des gens qui nous appellent en disant qu'ils aimeraient voilà, un commentaire poussé, bah, bien sûr il y en a une de nous qui se mobilise pour faire une visite guidée, pour assurer la visite guidée. Et en fonction, on s'adapte. On peut faire des micro-visites de 20 minutes, mais on peut aussi faire un grand tour avec beaucoup plus d'explications sur 1h30, 2h.
Nous n'aurons pas tout dit sur la Tomaselli Collection. Sur Tomaselli Collection, il n'y a même pas d'article, hein, je crois. C'est Tomaselli Collection qui se trouve à Vaise. Nous n'aurons pas tout dit. Eh bien, on se reverra. Alors peut-être lors de
du prochain accrochage, peut-être.
Ou éventuellement, il y a en février, c'est ça ou
En
c'est...
février, sur les Ignares.
Ah, ben on pourrait faire ça. Oui, d'ailleurs, on a prononcé leur nom tout à l'heure, les Ignares et les Sansistes, mais on n'en a pas dit davantage. Les Ignares, orthographe très spéciale. Il y a un Z initial pour commencer.
Exactement.
Donc on pourra se revoir. Je ne saurais que vous inviter, auditeurs, à aller sur le site qui est déjà en fait très, très complet. Il y a déjà beaucoup d'œuvres, mais il n'y en a pas 150. Si vous souhaitez voir les 150, il faut se rendre à la Tomaselli Collection. Il y a vraiment des choses qui sont très très belles. Hein. Je ne sais pas si on l'a indiqué ici, je voulais tout de même lancer tout à l'heure Julia, ces peintres sont intéressants. Enfin oui, ils ne sont pas connus, oui, ils n'ont pas été mis en avant, oui, mais il y a quand même des éléments, des choses très belles. On peut ressentir certaines émotions en les voyant, de belles, de grandes émotions, c'est intéressant. J'avais des petites annonces à faire en fin d'émission, non, allez, à peine. La musique, l'auditorium a lancé un bout de saison cet après-midi, enfin même à midi et demi, il jouait des œuvres au centre commercial de la Part-Dieu, et sinon les concerts commencent cette fin de semaine, puis on aura un peu plus tard aussi. Au théâtre, les Célestins ont enfin fait leur rentrée, et puis des expositions et des festivals, exposition au musée, aux archives, les archives départementales et municipales font chacune d'expositions. Municipales, elles se terminent, c'était des photographies, et les départementales, les archives départementales, l'exposition vient de commencer sur l'hôpital, soigner, guérir, accueillir. Il y a également le festival Rentrée en scène, nous en parlions la semaine dernière avec Olivier Clerc, je vous renvoie à l'émission de l'émission 3 105. Et puis enfin, Sens Interdit commencera à la fin octobre, mi-octobre. Nous recevrons Patrick Penaud le mercredi 11 pour nous en parler. Mercredi 11, c'est notre prochain rendez-vous auditeur-auditrice parce que le mercredi 4, l'émission fait relâche. J'ai un empêchement, l'émission ne pourra pas avoir lieu. Blues des Canuts, comme ça ils sont contents, ils pourront commencer à 14h55, c'est très bien. Et ouais, l'émission se termine, j'annonce, on va écouter, je l'ai hein, Julia, on va écouter le Ape Shit, on en parle depuis tout à l'heure, donc il va quand même falloir qu'on finisse par écouter ce titre, qui est à voir hein, plutôt, c'est une belle promenade dans le Louvre. Les émissions à venir, après le Blues des Canuts qui commence dans quelques instants, 15h, 16h, à 18h Mayday, 19h Canu Info, 20h Idées Noires, émission de l'UCL, et à 21h, je ne sais pas si c'est la bande-son de l'Orevol qui aura lieu ou bien à l'Est l'Eden, émission de quinzaine en revanche. 22h jusqu'à minuit, Bully Mix, émission Funky Stereo. Auditeurs, auditrices, portez-vous bien, allez donc à cette Tomaselli Collection, sortez aussi pour faire différentes choses, et rendez-vous dans deux semaines, mercredi 4 octobre, mercredi, 11 octobre avec Patrick Penaud pour parler de Sens Interdit. Julien, nous, il va falloir qu'on prenne nos agendas. Ce sera en février prochain, quelque chose comme ça.
Février prochain, et puis je viendrai peut-être avec des commissaires d'expo qui seront différents de Jérôme. Ce sera Denis Vaginet et Damien Boutet aussi, donc bon, deux grands experts.
On va caler tout ça. Les Carters, pour terminer, Beyoncé et Jay-Z qui se promènent. Non, ils ne se promènent pas, ils regardent leurs danseurs et tout ça. Si, Beyoncé, elle se promène un petit peu, elle danse aussi également au Louvre. Ils sont d'ailleurs devant la Joconde et devant d'autres œuvres. Il y a la Victoire de Samothrace, tout ça. Ouais. On se dit au revoir. Portez-vous bien, auditeurs, auditrices. Merci beaucoup, Julia.
Merci Christophe de m'avoir reçu. Merci à tous.